Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans 2 Timothée, et le chapitre 1. Je voudrais commencer à lire à partir du verset 8 et je vais lire jusqu'au verset 18 et parler de ce qui est la saine doctrine. La saine doctrine. Ici, Paul dit à Timothée, n'aie point, donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors, nous avons dans ce passage quelques mots clés au sujet de l'Évangile. Dans le verset 8, Paul identifie l'Évangile en disant que c'est l'Évangile duquel il n'a point honte. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Notez bien de la manière que c'est écrit, c'est précis. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Évangile qui sauve. Alors, ça nous dit qu'il faut beaucoup de discernement, mais ce discernement ne vient pas de l'homme. On ne peut pas, par notre raisonnement, discerner entre l'Évangile qui est vrai et l'Évangile qui est faux. Mais néanmoins, il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est cet évangile-là duquel on ne doit jamais avoir honte. On peut peut-être demander, mais pourquoi quelqu'un aura honte de l'évangile? Il y a un évangile qui est prêché aujourd'hui qui n'est pas l'évangile de Dieu. Et on peut dire que la majorité de ceux qui confessent ou professent Christ suivent un tel évangile. Peut-être qu'ils ne le savent pas en suivant, mais c'est cette voie qui est large et dans laquelle se trouvent beaucoup de gens. Mais c'est une voie, comme Christ a dit, qui mène à la perdition. Mais cette voie qui est étroite, la porte qui est étroite, c'est là l'évangile dont Paul parle ici. Et pourquoi cet évangile et si étroit? Numéro un, c'est parce que c'est un évangile qui donne toute la gloire à Dieu et à Dieu seul. L'homme n'a pas quelque chose à contribuer à ce salut qui est déclaré dans l'évangile de Dieu. Dieu sauve. Le salut vient de lui, du début jusqu'à la fin. Même avant de créer le monde, il a choisi depuis l'éternité, et ça c'est difficile pour nous de comprendre parce que c'est depuis l'éternité. Nous parlons dans des termes comme si c'est chronologique, mais il n'y a pas de chronologie en ce qui concerne Dieu. Il est éternel. Il voit la fin comme le début. Étant des hommes créés, nous ne faisons que découvrir ce que Dieu a dessiné de jour en jour. On ne peut pas discerner même une seconde en avance. C'est seulement en regardant en arrière qu'on peut savoir quelle était la volonté de Dieu sur cette voie qu'il a tracée pour nous. Et c'est la même chose en ce qui concerne le salut. Nous vivons, nos vies physiques dépendent de lui. Ça ne dépend pas du libre arbitre de l'homme, comme beaucoup prétendent. Si la vie éternelle dépendait du libre arbitre de l'homme, on pourrait imaginer que l'homme pourrait alors avoir ce même libre arbitre en ce qui concerne sa vie temporelle, sa vie physique. Mais je ne peux pas décider de ne pas tomber malade. Je ne peux pas décider d'éviter le rhume. Je ne peux pas décider de ne pas mourir. Ouais, cette décision ne dépend pas de moi. Et si c'est vrai dans la vie physique, combien plus en ce qui concerne les choses spirituelles, éternelles? Donc c'est Dieu qui décide toutes choses. Alors, c'est ça qui est une offense pour beaucoup, parce que ils sont des hommes pécheurs et ils sont orgueilleux. Je dois dire, nous sommes orgueilleux. C'est de cette manière que nous sommes nés dans le monde. Et donc, étant dépravés, vivant avec une chair pécheresse, nous n'avons aucune décision, surtout de venir à Dieu. Parce que notre nature, c'est de vouloir la gloire nous-mêmes. Pourtant, nous n'avons aucune gloire. Toute la gloire revient à Dieu. Donc, en ce qui concerne la décision de sauver les pécheurs, l'évangile dont Paul dit ici à Timothée, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Cet évangile, c'est un évangile qui donne toute la gloire à Dieu, tout d'abord, et deuxièmement, ne donne aucune gloire à l'homme. Aucune. Si je suis sauvé, je dois dire que c'est Dieu qui m'a sauvé. Tel est le message de la Bible. Mais l'homme veut toujours avoir sa main dans l'affaire pour pouvoir se tirer lui-même une petite partie de la gloire, même s'il ne va pas admettre cela, mais en fait, c'est ça qui est à la base, la racine, c'est de vouloir une partie de la gloire. On voit ça dans nos vies quotidiennes. Quelqu'un fait quelque chose et peut-être que nous avons aidé dans une partie du projet. Mais maintenant, quand on commence à reconnaître la personne qui est peut-être le chef du projet, et on veut lui dire, bien fait, si nous avons contribué même une petite partie nous-mêmes dans ce projet, nous allons dire quelque chose. Nous allons vouloir que les autres sachent que nous avons aussi participé. Telle est notre nature. On ne veut pas que la gloire revienne à une autre personne. Nous voulons aussi en tirer la gloire. Mais en ce qui concerne l'évangile, le salut, nous n'avons aucune partie dans cette affaire si ce n'est le péché. Ce que nous amenons dans cette affaire du salut, c'est le péché. Mais le salut, l'acte de sauver revient à Dieu seul. Alors c'est pourquoi il y a beaucoup qui ne veulent pas de cet évangile. Pourtant, c'est l'évangile de Dieu. Et Paul souffre pour cet évangile. Il est en prison au moment où il écrit à Timothée, mais Rien dans cela ne l'empêchait de continuer à donner la gloire à Dieu. Il ajoute dans le verset 8 à Timothée, mais souffre avec moi pour l'évangile. Cela veut dire, il ne faut pas que le fait que je sois en prison t'empêche de continuer à annoncer cet évangile et à identifier Timothée avec cet évangile qui est la base de mes souffrances. Et c'est dans le verset 9 alors qu'il précise ce que je viens de dire. Parce qu'il dit qui nous a sauvés, qui revient à Dieu, nous, s'agit de Paul et de Timothée, mais aussi de tous ces pécheurs que Dieu lui-même a choisis pour le salut. Ça, c'est évident, parce que dans le verset 9, il dit, nous a adressé une sainte vocation. Alors voilà comment l'évangile est précisé. Tous ceux que Dieu a choisis pour le salut, on peut se demander, mais comment on peut savoir qui sont ceux-là? C'est indiqué. Il leur adresse une sainte vocation, un appel. C'est lui qui les attire. Et c'est appelé une sainte vocation pour une raison. D'abord, Dieu est saint, mais il ne peut pas admettre dans sa présence les pécheurs. Il faut que Dieu soit juste tout en déclarant juste les pécheurs qu'il sauve. Alors, comment est-ce qu'il peut faire cela pour que ça soit une sainte vocation, un saint appel? Il faut d'abord qu'il déclare ses pécheurs justes, mais comment est-ce qu'il fait ça? Voilà l'importance alors de la mort de Christ, parce que c'est par le sang versé de Christ que les pécheurs sont purifiés et leurs péchés pardonnés. Et telle était la nature de la mort de Christ. Par sa vie, Christ est venu et il a satisfait à la loi de Dieu dans ses préceptes, mais par sa mort, il a satisfait la punition de la loi. De telle sorte que lorsque Dieu a ressuscité son fils de la mort, tous ceux pour qui il est mort étaient en ce moment-là, et par ce seul sacrifice, une fois pour toutes, justifiés, sanctifiés, dans Romains chapitre 3. Et, ou dans le verset 4 plutôt, dans le verset 4. Chapitre 4, verset 25 de Romains. C'est écrit concernant Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le mot pour là signifie dans l'original à cause. Donc, lisons de cette manière, lequel a été livré à cause de nos offenses et est ressuscité à cause de notre justification. Il y a beaucoup qui imaginent que Christ est mort pour tout le monde, sans exception, tous les individus du monde, mais ça dépend maintenant de l'homme de rendre cette mort efficace pour lui-même. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Peut-être c'est le message populaire et c'est ce qui est prêché. Mais cet évangile étroit, cet évangile dont Paul dit à Timothée de ne pas avoir honte. C'est un évangile qui déclare que Christ, lorsqu'il est mort, il est mort pour ce que le Père lui a donné. Et que sa mort a une fois pour toutes satisfait la justice de Dieu. De telle sorte que Dieu approuvant cette mort, ce sacrifice du Christ, l'a ressuscité. S'il restait même un péché au compte de ce peuple pour qui Christ est venu, Dieu le Père n'aurait jamais ressuscité son Fils. La résurrection de Jésus n'est pas simplement un fait historique. La résurrection de Jésus-Christ démontre, c'est une démonstration, que un Dieu saint a maintenant, une fois pour toutes, justifié chaque pécheur pour qui Christ est mort. Cela s'est passé à la croix, Voilà l'importance de la croix. Mais l'homme ne veut rien de cela. L'homme veut dire non, mais c'est à moi d'accepter ou pas. Et si j'accepte, donc je suis sauvé. Si je refuse, donc tant pis. Mais tel n'est pas le message de la Bible. Pourtant, c'est le message populaire dans beaucoup d'assemblées, la plupart, qui portent le nom de Christ, qui s'appelle chrétien, évangélique ou quoi. Peu importe. C'est un faux évangile. Il faut reconnaître cela. C'est seulement Dieu, par son esprit, qui peut donner ce discernement à un pécheur. Et c'est ce qu'il fait pour ceux pour qui Christ est mort et qu'il a élu. Parce qu'ici, dans 1 Timothée 1, et le verset 9, il dit, « nous a adressé une sainte vocation. Dieu est juste en appelant à lui-même ceux pour qui Christ est mort. Il n'y a personne, pas parmi les pécheurs, même le diable, qui peuvent accuser Dieu d'une injustice parce qu'il sauve certains et il condamne d'autres. L'homme est condamné de droit par sa nature pécheresse. Mais si un pécheur est sauvé, c'est aussi une question de droit. Dieu est juste, c'est une sainte vocation. Voilà le sens. Il a déjà déclaré juste par un paiement juste, un sacrifice juste, un sauveur juste. Et ce qu'il appelle, donc, c'est une sainte vocation. Et notez bien ce que dit la prochaine phrase dans 1 Timothée 1:9. Non à cause de nos œuvres. Non! Chaque fois que l'homme veut ouvrir sa bouche et dire oui, mais, dès qu'il dit mais, on doit répondre non. Non à cause de nos œuvres, mais, voilà, selon son propre dessein. Le dessein. Ça, c'est l'architecte qui met ça, un plan sur papier, et puis le bâtiment est construit selon ce plan. Ça, c'est le dessein, notez bien, éternel de Dieu, parce que c'est écrit selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Voilà encore où l'homme veut lutter avec Dieu pour dire non, ça doit être lorsque je vois, ou je crois, ou je prends ma décision. Non. Cette grâce donnée, notez bien, en Jésus-Christ. Même avant la chute de l'homme, Jésus-Christ était là comme le Sauveur. Il est le Fils éternel de Dieu. Et Dieu voulant l'honorer en tant que Fils de Dieu, mais aussi en tant que Sauveur, parce que Dieu est miséricordieux. Dieu, comme c'est écrit ici, est gracieux, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Mais il est aussi juste, donc il ne peut pas exercer sa miséricorde d'une manière injuste. Alors c'est en Jésus-Christ que Dieu lui-même a trouvé ce moyen d'être juste, tout en justifiant ceux qui croient en Christ. Mais c'est à cause de l'œuvre de Christ, c'est à cause de sa mort, et ce qu'il a accompli au calvaire. Mais cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ. Cela veut dire accordée, selon le dessein de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous étions sauvés depuis l'éternité, mais selon son propre dessein destiné. Si nous sommes sauvés, cela c'est depuis l'éternité que Dieu, selon sa volonté, a destiné, prédestiné au salut ceux qui devaient être sauvés. Mais ça demandait la satisfaction de sa justice. C'est pourquoi Christ est venu. Il devait venir dans le monde parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mais on voit déjà que l'évangile de Dieu, l'évangile de la Bible est hors de nos mains. Ce n'est pas dans la main de l'homme. Mais tout dépend de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 10, je viens de dire cela. Cet évangile, c'est un évangile d'abord duquel on ne doit pas avoir honte parce que ça donne toute la gloire à Dieu. Deuxièmement, c'est un évangile éternel. Il n'y en a pas deux. La chute de l'homme n'était pas une surprise pour Dieu. Il a pourvu un monde déchu. Il a prévu et même ordonné la chute d'Adam dans le jardin afin de glorifier son fils. C'est pourquoi le monde existe. Ce n'est pas pour nous, notre gloire, pour que nous puissions nous glorifier, mais c'est pour la gloire de son fils, Jésus-Christ. Mais pour accomplir ce salut, c'est ce que nous voyons dans le verset 10, il fallait que Christ vienne dans le monde. Donc c'est un évangile qui annonce un salut accompli dans le temps. C'est ordonné depuis l'éternité, mais accompli dans le temps. Et c'est écrit, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, manifesté maintenant. Christ est venu dans le monde, et c'est pourquoi dans Galates, chapitre 4, et verset 4, c'est écrit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption en tant que fils. Nous ne sommes pas nés fils de Dieu. Il fallait une adoption. Et si vous savez un peu le procès d'une adoption, c'est un acte légal. Ou peut-être un enfant est né dans une autre famille, mais légalement, vous adoptez cet enfant et cet enfant devient la vôtre. Deux de mes enfants sont adoptés. Et puis, il y a un qui est né du sein de ma femme. Mais les deux, je ne fais pas de distinction. Les deux que j'ai adoptés sont autant mes enfants que celui qui est né du sein de ma femme. Les trois sont mes enfants. Et ça, c'est le terme qui est utilisé ici, l'adoption. Mais il fallait un prix payé. Et c'est écrit afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Ça veut dire, cette loi de Dieu nous condamne, comme tout autre. Il fallait que la loi soit satisfaite afin que nous reçussions l'adoption. Donc, il y a un ordre dans ce salut de Dieu. Et c'est l'évangile qui démontre cet ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. L'évangile que nous avons annoncé, c'est un évangile juste. Ça justifie Dieu, ça lui donne la gloire, afin que tout soit juste devant Dieu. Mais il fallait que Christ soit manifesté, c'est écrit. Et qui a été manifesté maintenant? Comment? Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. L'apparition veut dire qu'il est né d'une femme. Parce que dans Genèse chapitre 3, depuis le jardin, depuis la chute de l'homme, Dieu a prophétisé la manière qu'il sauvera son peuple. Il a dit au serpent, le diable, dans le jardin, je mettrai, Genèse 3, 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On peut dire que Satan a blessé le talon de Christ lorsqu'il est mort, mais blesser le talon n'est pas aussi grave que écraser la tête. Et c'est ce que Christ a fait lorsqu'il est mort et il a accompli, satisfait la justice de Dieu. Il a écrasé la tête du diable, du serpent. Il a écrasé la tête de ce venin, où se trouve le venin. Le venin se trouve dans la tête du serpent. Alors, Christ, par sa mort, a une fois pour toutes aboli toute condamnation contre ceux que Dieu a destinés pour le salut. C'est une œuvre accomplie. Et ça, c'est le message de l'évangile. Mais c'est pourquoi il y a beaucoup qui n'acceptent pas cela, parce qu'ils veulent que ça soit pour tout le monde, ils veulent que l'homme ait sa décision, ils veulent que quand même quelques œuvres comptent pour quelque chose. Mais en ce qui concerne l'évangile, Tout est dans les mains du Seigneur. Et ça, son apparition, c'est écrit qui a détruit la mort. Voilà comment la tête du serpent a été écrasée et a mis en évidence. Voilà, ce sont des termes juridiques ici. Parce que on parle du droit. Et ici, c'est dans la cour de Dieu lui-même que le juste juge, le saint juge lui-même accorde la vie et le pardon et le salut aux pécheurs qui ne le méritent pas, mais a mis en évidence la vie et l'immortalité notée par l'évangile. C'est pourquoi je dis que c'est un évangile éternel. C'est un évangile qui sauve. Lorsque Dieu ouvre le cœur d'un pécheur, il ouvre les oreilles spirituelles d'un pécheur, les yeux spirituels. Ces pécheurs-là voient en Jésus-Christ tout leur salut. Ils n'ont pas d'espérance ailleurs. C'est en Christ et Christ seul. Ils ne mettent même pas confiance en leur foi. Il y a beaucoup aujourd'hui qui prêchent la foi, comme si ça c'est la clé du salut. Non, la foi, c'est le fruit du salut. Si tu comprends bien ces versets, verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Quand Dieu adresse une sainte vocation, un appel, il attire à Christ ceux pour qui Christ est mort, s'est manifesté par la foi. Mais la raison pour laquelle il les attire, c'est parce que Christ est déjà mort pour eux. Et il, c'est écrit, a détruit cette mort, détruit toute condamnation contre les pécheurs pour qui Christ est mort. L'efficacité du salut n'est pas dans le choix de l'homme, ce n'est pas dans la décision de l'homme, mais c'est en Christ et ce qu'il a accompli. Si vous regardez dans Colossiens chapitre 2 et le verset 13, c'est bien clair. C'est écrit, vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, mais notez bien, avec lui. Alors quand Paul parle à Timothée ici, en disant, a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile, il est en train de décrire le fait que lorsque Christ est ressuscité, tous ceux pour qui il est mort, était aussi ressuscité avec lui. Notez bien, on ne peut pas sauter des mots. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et notez verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et il l'a détruit. C'est le même mot dans 2 Timothée 1 et le verset 10, il parle d'avoir détruit la mort ici. Qu'est-ce qui a été détruit? C'est écrit les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit, notez, en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc, le verset 16 continue que personne donc ne vous juge. Peu importe ce que les gens disent, ils disent, ah oui, mais il faut quand même suivre les règlements, la loi. Non. Le seul règlement, la seule loi que nous suivons, c'est l'évangile qui dit que lorsque Christ est mort, il est mort pour ses pécheurs, que Dieu le Père lui a donné. Et il ne perdra rien de ce que le Père lui a donné. Tel est l'évangile. Alors, c'est un évangile bien vrai que l'homme lui-même déteste. Mais lorsque l'Esprit de Dieu fait une œuvre de grâce dans le cœur, alors ces pécheurs-là viennent à Christ et se soumettent à lui en toutes choses. Alors, verset 11. On précise encore, c'est pour cet évangile. On ne peut pas lire cela sans en tirer la conclusion qu'il n'y a qu'un seul évangile. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Les païens signifient les nations du monde. Paul était juif. Mais Dieu l'a tiré hors de sa tradition, sa religion, pour aller annoncer cet évangile au monde. Pourtant, c'était les juifs qui avaient la loi, ils avaient les écritures, mais ils ont renoncé à ce message. Parce qu'ils étaient aveugles. Mais c'est le message qui a été donné à Paul d'aller annoncer aux nations. Un seul évangile. Et il dit que c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Il y a, donc je dirais, c'est l'évangile dont la Bible parle, c'est un évangile, c'est l'évangile qui doit être prêché. Comment est-ce qu'on peut savoir qui est un véritable prédicateur ou pas? Souvent, les gens me posent ces questions, mais il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de voix. Comment on peut savoir qui vraiment représente Dieu et qui est faux? Notez, Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Alors, si quelqu'un se dit prédicateur, mais il prêche un message mixte, un peu de levain, ça influence pain entier, vous voyez, ça c'est un message mixte. Quand quelqu'un veut prêcher la grâce de Dieu, puis en même temps prêcher un peu les œuvres de l'homme, déjà ce n'est plus l'évangile. C'est corrompu, perverti. Alors, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Quand quelqu'un me pose une question, il me demande, mais est-ce que tu as écouté tel ou tel homme? C'est vraiment un prédicateur reconnu. D'abord, déjà, j'ai un problème avec cela parce que ceux qui prêchent l'évangile, qui sont appelés de Dieu, ne sont pas populaires. Les masses ne sont pas en train de les suivre. Il faut prendre l'exemple même de Christ. Lorsqu'il était sur la terre, les gens poursuivaient notre Seigneur en foule, mais pas son enseignement. Le Seigneur lui-même déchiffrait entre ceux qui étaient vraiment pour lui et ceux pour qui il est venu, il reste. Alors, Paul dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. On ne prend pas sur nous-mêmes la décision d'aller prêcher. Notez le mot que Paul utilise. Cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre. Notez, chargé d'instruire les païens. L'homme ne doit pas courir de lui-même. Mais c'est Dieu qui suscite les prédicateurs et c'est Dieu qui les envoie. Mais la seule manière que nous pouvons reconnaître qui est envoyé de Dieu ou qui court de lui-même, c'est le message qu'il a annoncé. Si le message n'est pas conforme à ce que nous lisons ici dans les Écritures, donc c'est un faux prédicateur. Et il faut les marquer. Comme Paul lui-même dit un peu plus tard ici, il a même cité deux hommes dans le verset 15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène, ils annoncent et prononcent leur nom. Et nous devons faire la même chose. On ne peut pas laisser ceux qui sont en train de prêcher un faux message et qui sont connus du monde. On ne va laisser les gens croire que qu'ils sont, oui, bien vrai, peut-être qu'ils ne prêchent pas exactement l'évangile comme il faut, mais alors quand même ils servent Dieu. Non. Ici, Paul dénonce ces deux-là comme de faux. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Même Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Il y a beaucoup de prétendants prédicateurs et professeurs, ceux qui professent être à Christ, mais quand on leur annonce le véritable évangile, ils vont fuir. S'ils ne sont pas de Dieu, ils vont fuir. Ils vont aller ailleurs. C'est pourquoi nous ne devons pas imaginer que si nous prêchons cet évangile, qu'il y aura beaucoup de gens attachés à cet évangile. Non, c'est un évangile qui divise et qui fait en sorte que ceux qui ne sont pas attirés par Dieu lui-même ils s'en iront. Comme Paul dit, ils m'ont abandonné. Néanmoins, nous devons rester fidèles à cet évangile. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de descriptions de l'évangile dans ce passage. Mais il dit, dans le verset 12, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Il y a beaucoup de prédicateurs qui cherchent à être populaires, ils veulent être aimés par le monde et avant tout, ils veulent vivre aux dépens des messages et recevoir non seulement la reconnaissance, mais aussi la récompense en argent. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ne peuvent pas renoncer le message qu'ils prêchent parce qu'ils vivent aux dépens de ce faux message. Et ils reçoivent les dons, leur salaire. Il y a beaucoup de choses qui charnelles, qui les empêchent de renoncer au faux message. Mais Paul dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte. C'est la deuxième fois qu'il dit ça. Car je sais en qui j'ai cru. Notez la manière que c'est écrit. Je sais en qui j'ai cru. Alors voilà, là encore, une description de l'évangile. C'est un évangile qui concerne une personne, la personne de Christ, car je sais en qui j'ai cru. Ça ne dit pas en quoi j'ai cru, mais en qui. Bien vrai, on a la doctrine de la vérité qu'on trouve dans la Bible, la doctrine. Mais quelqu'un peut connaître intellectuellement et même réciter la doctrine, ce qui est écrit, et en même temps, ne pas connaître la personne que la doctrine annonce. C'est comme dans les écoles, on fait réciter certaines écritures ou bien certaines phrases par les élèves. Le maître dit la phrase et puis on entend les élèves répéter ce que dit le maître. Et le fait que les enfants répète ce que dit le maître ne veut pas dire qu'ils ont une compréhension de ce que dit le maître. Et c'est comme ça beaucoup. Ils ont la Bible. Et ils lisent la Bible. Ils apprennent. Ils sont endoctrinés. Ils apprennent certaines phrases. Mais en fait, ils ne connaissent pas la personne qui est à la base de toute écriture. C'est ce que Christ a dit aux pharisiens. Il disait, vous étudiez les Écritures parce que vous pensez en elles avoir la vie éternelle, mais il dit, ce sont ces Écritures qui témoignent de moi. Et voilà ce qu'ils ont manqué dans cela. Beaucoup sont comme ça. Ils prennent la Bible, ils veulent lire des parties pour des besoins personnels, être heureux, être béni, il y a beaucoup comme ça. Ils prennent la Bible un peu comme une fétiche. Alors, il faut toucher leur idole le matin avant de sortir, parce qu'ils veulent la bénédiction de Dieu. Tout est centré sur eux, mais la Bible n'est pas écrite pour autre chose, si ce n'est de témoigner de Christ. Et c'est pourquoi Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Un dépôt. Vous allez à la banque. Si vous avez quelques biens que vous ne voulez pas, vous voulez garder. Vous ne voulez pas que les voleurs rentrent et volent. Vous allez à la banque, ils ont des boîtes. Vous mettez ces choses dans la boîte avec une clé et c'est garder, garder le dépôt. C'est de ça que Paul dit. Notez bien, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ce n'est pas moi qui garde ce dépôt, c'est lui. C'est une manière de dire que tous ceux qu'il a sauvés, ils gardent. Notre persévérance dépend pas de nous, mais ça dépend de lui. Alors c'est pourquoi il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle. Et voilà cela. Au départ, je disais que le titre de ce message, c'est la sainte doctrine. Voilà. Il s'agit de saines paroles. Saines dans le sens que c'est propre. Ça donne la santé. Et surtout en ce qui concerne la vie éternelle. Il dit, retiens. Dans la foi et dans la charité, ces deux vont ensemble. Mais notez, qui est en Jésus-Christ? D'où vient la foi? C'est en Jésus-Christ. D'où vient la charité? C'est en Jésus-Christ. Ça veut dire la manière que nous agissons envers un monde perdu, c'est à cause de cette foi et cette charité qui est en Jésus-Christ. Mais la meilleure façon d'aimer ceux qui nous entourent, c'est de leur dire la vérité. Ce n'est pas cacher la vérité. Et je crois que nous devons anticiper que si nous allons rendre le même témoignage que l'apôtre Paul, nous pouvons anticiper être isolés, être abandonnés. Et, mais tout cela, peu importe, si nous avons déjà celui dont cet évangile parle, c'est Christ. Mais gardez, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt. Notez bien, par le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous continuons dans cette voie et nous regardons à Christ et Christ seul? C'est par l'Esprit. C'est ça le sens de garder le bon dépôt. En dehors de Christ, rien n'est bon. Tout est faux, mais garde le bon dépôt. Le dépôt qui est l'Évangile et qui donne toute la gloire à Dieu à travers son Fils, le Saint Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit qui habite en nous. Voilà encore, cette sainte doctrine n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est une révélation de Christ en nous. C'est écrit par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ce n'est pas tous qui ont l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup qui prétendent avoir l'Esprit de Dieu, mais c'est un esprit de la chair et de l'homme. L'esprit de Dieu ne parle pas de lui-même, mais il prend les choses concernant Christ et il les révèle en nous, en ceux que Dieu a choisis et pour qui Christ est mort. Alors je vais m'arrêter là. Je sais qu'il y a d'autres versets, mais le temps passe et je voudrais vous laisser aussi le temps de partager quelques commentaires si le Seigneur éclaircit cette vérité dans votre cœur.
Voilà, merci.
J'espère que c'est clair. La parole est toujours claire. C'est l'homme qui rend la parole fou.
Oui, pasteur, moi, je voudrais intervenir un peu pour ajouter quelque chose.
Oui.
Alors, pour le moment, je pense que ça, c'est vraiment toujours comme quand on écoute l'évangile. C'est vraiment une bénédiction pour nous de savoir que nous écoutons, comme Paul l'a tenté de le souligner, nous écoutons le seul vrai évangile. Il n'y en a pas plusieurs. Un évangile qui est centré sur Jésus-Christ, et Jésus-Christ est crucifié seul. Et Paul déjà évoque le mobile déjà dans la première épître de Corinthiens. Il dit que je prêche l'évangile, Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Ce message est un scandale, le message de la croix, qui est un scandale pour les autres. Vous voyez? Attends, il est ici, dans 1 Corinthiens 17. Voilà. 1 Corinthiens 1, verset 23. Il dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Voilà. Jésus-Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant que juifs et grecs, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà. Donc, ça, Paul, il est toujours cohérent dans ses propos. Il ne change pas le message qu'il prêche. Et là, quand il commençait à lire jusqu'au verset 14, par exemple, dans la deuxième épître de Timothée, et ça me rappelle aujourd'hui qu'effectivement, il y a beaucoup de prédicateurs. Et tous prétendent prêcher l'évangile. Du moins, on peut appeler ça quelque chose qui prêche l'évangile. Mais qui n'est pas le seul vrai évangile. Or, de nos jours, il est vraiment difficile de masquer les faux prédicateurs. dans cette épître de Timothée, quand on regarde le verset 14, où Timothée dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, donc, quand souvent on est dans la religion, on entend parler les gens au sujet du Saint-Esprit, et certains prédicateurs organisent les croisades, les campagnes d'évangélisation, comme ils le disent, et ils disent qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va descendre. Or, on se rend bien compte, à travers les écrits, tout ça, que tous les véritables enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé, qui est appelé au cours d'une prédication, ou bien une campagne d'évangélisation, où le pasteur prie, ou bien le prédicateur prie, puis, OK, le Saint-Esprit maintenant commence à descendre sur les membres de l'Église. Donc, quand Paul il parle ici, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est ça qui a attiré mon attention, que le Saint-Esprit est véritablement parmi les enfants de Dieu. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont le Saint-Esprit. Voilà. Et il dit aussi verset 13 ici, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Alors, donc souvent, quand on ne veut pas changer de prédicateur, on ne veut pas qu'on nous annonce un autre évangile que ceux qui nous ont révélé fidèlement l'évangile qu'on veut s'intéresser. Ce n'est pas parce que c'est eux qu'on suit, mais c'est eux que Dieu a choisi. Daigner prêcher l'évangile. C'est pour ça que nous, souvent, nous devons prier que Dieu nous envoie un vrai prédicateur. C'est une bénédiction que le Seigneur de susciter des vrais prédicateurs et des vrais pasteurs qui prêchent fidèlement l'évangile comme Paul l'a si clairement écrit. Donc, les instructions que Paul donne vraiment à Timothée, ça interpelle tout un chacun de nous aujourd'hui. Tout un chacun de nous, ça nous interpelle. Donc, pasteur, vraiment, merci pour les belles paroles que le Seigneur a mises dans ta bouche et qu'aujourd'hui tu nous as instruits là-dessus. Et ça nous rappelle vraiment, peut-être, ça nous encourage, que malgré les persécutions, les difficultés, et malgré le fait qu'on est loin, que nous regardions par Jésus-Christ. Nous regardions à Christ par la foi. En dehors de lui, il n'y a pas un autre danger. Voilà ce que je voulais dire.
Amen. Non, c'est vraiment réconfortant. Surtout que nous voyons que c'est clairement précisé dans la parole de Dieu. Quand on voit ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de confusion. Et ça sème des doutes parfois, même dans le cœur des élus. Christ lui-même a parlé de cette déception, disant que si c'était possible, même les élus seraient attirés par ce qui se passe dans le monde. Mais quand on vient à la Bible, et surtout ce même esprit, c'est l'esprit qui doit révéler en nous ce qui concerne Christ. Mais quand on voit ça, on lit dans la Bible tranquillement, doucement, on voit que c'est clair, c'est net. Mais puisque le monde est encore dans l'aveuglement, le monde ne peut pas voir ces choses qui sont si précieuses pour nous. Alors, je remercie le Seigneur pour ce témoignage et surtout, même si nous ne sommes pas nombreux, le fait de pouvoir nous rassembler comme ça, ce n'est pas le fait d'être dans le même lieu physiquement avec d'autres qui appartiennent au Seigneur, mais il faut savoir que nous nous rassemblons à part parce que nous ne pouvons plus identifier avec ce qui se passe dans la religion et même dans ces assemblées qui se disent chrétiennes. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe, on voit que c'est contraire à la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur pour le témoignage que tu as rendu. C'est vraiment
Voilà.
mon témoignage, c'est ça?
Bon. D'accord, je crois que vous me recevez.
Très bien.
Oui, Koulibaly, bonsoir, oui. Voilà, j'avais fermé le micro, mais j'ai peut-être donné plus d'éclaircissement à mon frère qui est avec moi. Vous saviez que les choses commencent vraiment à progresser. Nous devons réellement remercier Dieu. Je suis en train de faire vraiment le hangar. Et prochainement, je crois que le samedi prochain, on sera un peu nombreux même. Dieu voulant. Alors, je devais prendre du temps pour expliquer des notions élémentaires à mon frère. Vous saviez que j'ai dans le groupe vraiment beaucoup de catholiques et d'autres personnes qui n'ont pas une grande connaissance de la parole de Dieu. Alors, quand on parle par exemple du sacrifice, hein, du Christ. Alors, il faut des fois passer un peu dans l'Ancien Testament pour leur expliquer, leur montrer hein, pourquoi ce sacrifice. Pourquoi avant, quand des aïeux, on faisait des sacrifices. Alors, je devais prendre vraiment des fois, tout ce temps, des fois pour essayer de leur expliquer cela. Alors, le frère est là et il peut peut-être vous poser un peu. Allô? Oui,
Allô?
allô? Allô? Oui. Allô? Ah, oui, on te reçoit, on t'écoute.
J'ai reçu le message de Dieu. Donc, je vous remercie de m'assister pour cela. Et moi aussi, je vais chercher à connaître la voix de Dieu.
D'accord.
Donc, comment Jésus a été resté ses sacrifices pour nous?
Oui,
Tu peux répéter, s'il te plaît? Voilà, et je crois que c'était la résurrection du Christ qu'il voulait vraiment bien comprendre. Je ne sais pas si le frère peut vraiment l'aider un peu.
Oui, dans la résurrection de Jésus-Christ, comme
Allô?
je lisais dans Romains chapitre 4, verset 25, la résurrection de Jésus-Christ est une démonstration que ce que Christ est venu accomplir par sa mort, il a accompli. Vous savez que Christ est comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, mais Koulibaly, tu as bien dit, pour connaître le message de l'Évangile, il faut avoir une base dans l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans comprendre les mots sacrifice, sacrificateur, l'agneau, immolé. Mais cela aussi, c'est par une révélation de Dieu au cœur, parce que les gens s'imaginent que c'est par leurs œuvres qu'ils peuvent s'approcher de Dieu. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule manière de s'approcher, c'était à travers un sacrifice qui était sans tache, sans faute, et c'était par un sacrificateur ordonné de Dieu. Mais toutes ces choses étaient que des types, c'était des symboles prophétiques de l'œuvre de Christ, parce que Christ est le souverain sacrificateur par qui Dieu maintenant accepte ce qu'il représente. Et ce n'est pas le sang de bouc ou de taureau ou des animaux. Ces sacrifices ne pouvaient jamais ôter le péché, mais c'était des représentations de l'œuvre de Christ que lorsqu'il est venu, c'est par sa mort, c'est son offrande. C'est pourquoi Jean-Baptiste prêchait, voici l'agneau de Dieu. Il y avait beaucoup d'agneaux immolés jusque-là, mais voici l'agneau de Dieu. Cela veut dire que tous ces sacrifices d'animaux n'étaient que des représentations du seul sacrifice de Christ par lequel Dieu sauve les pécheurs. Alors, tout est conditionné sur Christ et sa mort. Et aujourd'hui, si nous essayons de nous approcher par nos œuvres ou par notre propre volonté, nous serons toujours rejetés parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Mais tous ceux que Dieu a sauvés par le sang de Christ, c'est quand Christ est mort, c'est comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, il portait le nom des tribus d'Israël sur sa poitrine lorsqu'il entrait dans le lieu très saint, mais avec le sang. Et il a versé ça l'autel, ouais, une fois par an dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, Christ étant venu le souverain sacrificateur, il porte le nom de ce que le Père a choisi et lui a donné depuis l'éternité. C'est pas pour tout le monde. C'est comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. C'était le nom des patriarches de 12 tribus d'Israël qui portaient sur sa poitrine le nom inscrit. Et c'est représentant du véritable peuple de Dieu pour qui Christ est mort. C'est pas pour tout le monde. Dès que vous entendez quelqu'un en train de prêcher que oui, Christ est venu mourir pour tout le monde et maintenant C'est à vous de prendre la décision. Ça, c'est déjà un faux prédicateur. Le Christ, le souverain sacrificateur, porte le nom de ceux pour qui il est venu, ceux que le Père lui a donné. Et c'est pour eux qu'il a versé son sang. Alors, sa résurrection est une démonstration que Dieu le Père a accepté son offrande. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, offrir le sang immolé à Dieu. S'il sortait vivant du tabernacle, du temple, donc c'était une indication que Dieu a accepté cette offrande à l'égard du peuple. Et c'est là que le souverain sacrificateur élevait ses mains et il bénissait le peuple. Ils étaient pardonnés par cette offrande. Cela représente la résurrection de Jésus-Christ, que lorsqu'il ressuscitait, il a apparu encore à ses disciples et à certains d'autres témoins avant d'aller au ciel. C'était une démonstration que il a achevé l'œuvre qu'il est venu accomplir. Et le fait que le Père l'a reçu encore au ciel, c'est une évidence aussi que ceux pour qui il est mort sont aussi acceptés en lui, justifiés par son œuvre. Alors tout est centré sur l'œuvre de Christ et sa personne, et non pas nous.
Oui, je comprends maintenant.
C'est bien, c'est pas d'un coup qu'on va comprendre, mais je t'encourage réellement à
Je
suivre
comprends.
la Bible, écouter, ne pas écouter les hommes, mais écouter la parole de Dieu.
Mon frère Ken, je vous remercie d'avoir de tout ce qui a été dit là. Parce qu'il faut savoir que M. Barthélemy, le frère Barthélemy, est un peuple vraiment idolâtre. C'est-à-dire, c'est des sacrifices. C'est le peuple Niarafogo. C'est des gens dont il y a des masques, beaucoup de choses. Alors, pour
Voilà.
vraiment épargner souvent dans leur vie, ce n'est pas facile. Alors, voilà pourquoi j'ai vraiment, au moins, dans le groupe, plus de quatre Niarafogo, alors qui tiennent vraiment beaucoup à des anciennes choses. Alors, donc, je vous demande réellement de prier pour moi. Surtout ce
Voilà.
message-là, je l'ai déjà enregistré. J'ai enregistré ça aujourd'hui ici. Parce que le dimanche soir, je les trouve souvent. Je vais les faire écouter ces messages-là. S'ils entendent ça vraiment de la bouche de mon frère Ken et de ma bouche aussi, alors nous saurons que vraiment l'évangile de la grâce, c'est ça qui est l'évangile précieux. Alors, ils ont besoin d'être délivrés aussi même hein, des appels de catholicisme, il faut le dire. Parce que Marie, tout ça, bon, des fois vraiment, ils arrivent à comprendre. Beaucoup même ont appris vraiment à savoir prier maintenant et à baser leur prière sur Christ et sur Christ seul. Alors vraiment, je vous remercie pour tout cela. Et la prochaine fois, Dieu vous rend, je crois que nous serons encore plus nombreux. Alors, pour écouter le message, que le Seigneur vous bénisse.
Amen. Oui,
Amen.
nous sommes tous des idolâtres par
Amen.
nature. Seulement, ça se manifeste différemment, dépendant des cultures, mais nous sommes tous nés idolâtres. Parce que nous sommes fiers de nous. S'il n'y a pas même un objet devant nous, mais notre cœur est idolâtre. Mais nous en avons besoin alors d'être délivrés. Ah oui. Bien, prions. Seigneur, nous te remercions du fait que nous a permis aujourd'hui de nous rassembler de cette manière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit de grâce qui ne cesse de nous enseigner et nous attirer davantage dans cette connaissance de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé et sauveur et rédempteur de ton peuple. Alors, je te remercie pour chacun que tu as réuni aujourd'hui et cette possibilité à travers la technologie, même si c'est appeler sur un téléphone et laisser d'autres écouter et suivre. Il y a beaucoup de manières aujourd'hui que tu as pourvues pour l'avancement du véritable évangile. Mais que tu fasses ton œuvre et que Seigneur, en toutes choses, tu reçois la gloire. Alors, je te prie de garder chacun dans tes mains et nous permettre, nous voulant, la semaine prochaine, de nous rassembler de nouveau. Continue par ta grâce à nous enseigner. Et dans tout cela, nous te remercions et nous te rendons grâce à cause de Christ et son œuvre accomplie pour les pécheurs comme nous. Et c'est dans son Saint-Nom que nous te prions et nous te remercions. remercions. Amen.
Amen. Amen.